Gomez pour rappel sur l'actualité.
Merci Arthur Ponchelet. Prochain grand rendez-vous avec l'actualité africaine à 12h30, temps universel.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
De retour pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité, c'est la Libre Antenne, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix et nous allons commencer en parlant de la Côte d'Ivoire. La présidentielle du mois d'octobre se tiendra-t-elle sans aucun des principaux ténors de l'opposition? La question est posée, d'autant que pour l'instant, l'ancien président Laurent Gbagbo, l'ancien ministre Charles Blé Goudé, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro ou encore Tidjane Thiam, le candidat du PDCI, eh bien aucun de ces aucune de ces quatre personnalités ne figure sur la liste électorale. Elles sont donc inéligibles suite à des décisions de justice. Bonjour Dominique.
Bonjour Anne.
Comme tous les Ivoiriens, vous êtes passionné par la situation politique dans votre pays, passionné ou peut-être exaspéré, je ne sais pas. En tout cas, pour vous, il n'y a pas de doute. La justice est aux ordres du pouvoir dans votre pays.
Effectivement, on le constate, vous l'avez cité, quatre grandes personnalités, comme ça, vous nous les citez, ce sont des présidents des partis politiques de l'opposition. Et vous venez de donner le fait que toutes ces personnes-là sont condamnées par la justice ivoirienne.
Alors, Tidjane Thiam n'a pas été condamné par la justice ivoirienne, je le précise, mais la justice a effectivement décidé qu'il devait être radié des listes électorales, puisque d'après la juge qui a été saisie par le dossier Tidjane Thiam, ce dernier aurait perdu la nationalité ivoirienne au moment de s'enrôler sur la liste électorale en 2022. Mais tout ça pour dire quoi, Dominique? Vous êtes vraiment convaincu que c'est le pouvoir qui tire les ficelles?
Effectivement, c'est clair. Ce sont des contorsions que le pouvoir en place met en œuvre pour pouvoir écarter tous les opposants. Et cela va entraîner vraiment des troubles, je pense, en octobre 2025 et peut-être même avant.
Des troubles. Vous pensez, vous craignez quoi? Que le scénario de 2010 se répète? Que la crise soit aussi importante?
En effet, et je pense que si l'État de Côte d'Ivoire est consciencieux et veut le bien de la population, elle doit se mettre au travail, écouter les opposants et leurs revendications. À savoir, premièrement, elle doit annuler toutes ces décisions politiques-là, de justice, entre guillemets, politiques-là, réintégrer tous les opposants tranquillement sur la liste électorale.
Ouais, bon. Vous dites que ce sont des décisions politiques. Je rappelle, parce que c'est important, que le gouvernement, et en l'occurrence le ministre porte-parole Amadou Koulibaly, assure que le principe de la séparation des pouvoirs est respecté, que la Côte d'Ivoire est un état de droit, et il assure que les élections seront apaisées, elles seront démocratiques, transparentes, donc pas d'inquiétude du côté du gouvernement, mais visiblement à vous entendre, vous craignez que si ces quatre personnalités ne réintègrent pas la liste électorale, cela crée de nouvelles tensions dans le pays. C'est clair pour vous? On va voir ce qu'en pense votre compatriote Fernand, également à Abidjan, dans la capitale économique ivoirienne. Ne raccrochez pas, Dominique. Hein. Bonjour Fernand.
Oui, bonjour Juan.
Dans quel état d'esprit êtes-vous à 6 mois de la présidentielle dans votre pays?
Contrairement à ce que mon prédécesseur vient de dire, moi je pense que mon prédécesseur ne vit pas certainement en Côte d'Ivoire. Quand il parle de décision politique, elle n'a pas d'une décision de justice. On va aller seulement sur le cas du président Tidjane Thiam. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui a demandé à M. Tidjane Thiam de faire une naturalisation en France pendant qu'il était ivoirien. Ce n'est pas à l'État de Côte d'Ivoire qui a demandé à M. Tidjane Thiam de violer l'article 48 qui existe bien avant lui sa naissance. Pour revenir à mon état d'esprit,
l'article 48, excusez-moi, je rappelle pour tous les auditeurs, du Code de la nationalité, hein, qui stipule qu'un Ivoirien majeur perd sa nationalité ivoirienne s'il acquiert volontairement une autre nationalité.
Une autre nationalité, effectivement. Et ce que moi je veux dire, moi mon état d'esprit, moi je pense que les élections vont très bien se passer. Et contrairement à mon prédécesseur, l'opposition gagnerait mieux à faire profil bas, à utiliser le bon ton pour amener le gouvernement à la table de négociation pour ouvrir un dialogue social.
Ouais, mais le gouvernement, un dialogue social, mais pas un dialogue politique.
Oui, justement, un dialogue social, c'est, je veux que ce dialogue soit général. Oui. Ce dialogue ne doit pas être limité qu'à à des personnalités politiques qui, du reste, ont chacun dirigé ou leur parti a déjà dirigé le pays.
Mais c'est compliqué. Excusez-moi, Fernand. Fernand, c'est compliqué de se dire l'élection présidentielle va très bien se passer quand on sait qu'à l'heure actuelle, au moment où nous parlons, vous avez Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et Tidjane Thiam qui ne pourront pas briguer la magistrature suprême.
Effectivement.
Donc, vous dites
en 1995,
quoi? Que dites-vous?
Le président Ouattara et le président Gbagbo n'étaient pas candidats face au président Henri Konan-Bédié du PDCI-RDA. Mais les élections se sont très bien passées. Ça, c'est un cas de jurisprudence. Nous sommes contemporains d'un fait one. Ici, ce qu'il y a lieu de faire pour apaiser les choses, il faut simplement que l'opposition arrête de donner des injonctions au gouvernement. La Côte d'Ivoire a un gouvernement responsable qui est au travail, qui lutte pour la sécurité des biens et des personnes vivant en Côte d'Ivoire. Donc, le gouvernement n'acceptera pas de désordre. Et pour éviter qu'on en arrive là, il faut que l'opposition soit responsable, il faut que l'opposition utilise un bon ton pour amener le gouvernement
en tout cas,
à la table des négociations.
Toutes les personnes concernées réclament leur réintégration, elles appellent toutes à un dialogue politique avec le gouvernement. Dominique, je vous redonne la parole pour la conclusion.
D'accord. Vous voyez déjà, c'est clair que l'opposition est muselée ici.
Pourquoi ?
Et je veux que le dialogue social, comme mon prédécesseur vient de le dire, s'ouvre et qu'on réalise un audit pour aplanir toutes les irrégularités qui sont aussi sur la liste électorale.
Donc un audit de la liste électorale permettra donc d'apaiser les tensions. Bon, certains diront, attention, la présidentielle est dans 6 mois, donc si on s'engage maintenant, on lance un audit complet de la liste électorale, le calendrier risque d'être trop serré. Dominique et Fernand, je vous entends tous les deux au loin, comme avec cette envie de revenir sur l'antenne de RFI, de prolonger la discussion. Je sais que le sujet passionne en ce moment l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler très très vite dans cette émission, mais il y a d'autres sujets qui vous interpellent également, qui ne vous ont pas laissé indifférent tout au long de la semaine. Jérémy, bonjour. Allô Jérémy, êtes-vous là? Alors Jérôme, c'est autant pour moi, il s'appelle Jérôme, mais moi à l'antenne je l'appelle Jérémy, donc forcément il ne répond pas. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Comment allez-vous à Bobo Dioulasso?
Très bien, et vous?
Bah écoutez, très très bien, merci. Ravi d'avoir des auditeurs du Burkina Faso en ligne. Le Burkina Faso, où mercredi, des meetings de soutien au capitaine Traoré ont été organisés à travers le pays, à Ouagadougou notamment, mais aussi dans votre ville, à Bobo Dioulasso. Et vous étiez au milieu de cette foule énorme, place Tiefo à Moro, donc à Bobo, et vous aviez envie de témoigner ce matin dans la Libre Antenne.
Oui, Juan, il ne s'agit pas seulement du Burkina Faso, mais c'est à l'échiquier mondial et planétaire et même spatial.
Oui,
parce
bon.
Que sur la Lune, des gens ont fêté, ont participé à ces manifestations pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Et effectivement, nous étions à la place Tiefo à Moro pour soutenir ce capitaine patriote qui aime bien son pays. Contre les propos du général Langlais qui prétend dire qu'il utilise les ressources du Burkina Faso pour protéger son propre pouvoir au lieu de s'attaquer aux problèmes de la population, ce qui est archi faux.
Je rappelle que le général en question est le chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, donc il est à la tête de l'Africom, et effectivement, devant une commission du Sénat américain, il a accusé le capitaine Traoré d'utiliser les réserves d'or du pays à des fins personnelles, à des fins de protection personnelle, au détriment du bien-être de la population. Vous, Jérôme, vous dites c'est faux. Que cherche-t-il le général américain en tenant de tels propos?
Ah,
bah voilà, on est en direct. Jérôme a dû soit me mettre en double appel ou soit la liaison téléphonique a été interrompue entre Paris et Bobo Dioulasso. Bon, on va essayer de le rappeler bien évidemment dans un instant. Bonjour Abdelkader.
Bonjour Juan.
Oula, ça résonne là où vous êtes Abdelkader. Pouvez-vous peut-être vous déplacer, vous mettre à l'extérieur, qu'on puisse bien vous entendre?
Ok, je me suis déplacé.
Ah bah oui, on aurait dû vous prévenir avant de vous faire passer à l'antenne. La salle, la pièce où vous êtes résonne énormément. Alors, est-ce que vous êtes dehors? Sinon, tant pis pour vous.
Non, je ne suis pas dehors, je suis dans un appartement.
Bon, ben non, tant pis pour vous, Abdelkader. Hein. Bon, vous avez prévenu, et là, ça résonne énormément, et on ne peut pas vous entendre correctement. Désolé pour vous et pour nos auditeurs. Plusieurs d'entre vous souhaitent prolonger notre débat d'hier sur le Mali. Le Mali, vous le savez, il y a une consultation nationale qui a été organisée par la junte, par les autorités. Elle a été boycottée par la plupart des partis politiques, et les participants, en tout cas, recommandent de prolonger la transition jusqu'à la pacification du pays, donc pas d'élection tant que la paix ne sera pas de retour. Et les participants à ces assises proposent également la dissolution de tous les partis politiques. Bonjour à Assédou.
Bonjour, Juan.
Bienvenue à Assédou, vous êtes dans la capitale malienne. Ces recommandations, vous disiez au Standard que vous les saluez. Elles sont positives pour votre pays.
Non, je les salue d'autant plus que ce sont des Maliens qui se sont réunis et ont fourni des recommandations. Pour mieux asseoir une refondation en profondeur sur tous les plans au Mali.
Oui.
Parce que les situations de crise multidimensionnelle que le Mali a toujours traversées sont souvent dues à des problèmes politiques profonds qui n'ont jamais été résolus à la base. Il est nécessaire aujourd'hui pour que les Maliens reprennent confiance à leur parti politique, à leur système de gouvernance politique. Il faut réformer comme les Maliens sont en train de les demander. C'est une aspiration profonde du peuple malien.
Alors vous dites c'est une aspiration profonde du peuple malien. On ne sait pas sur quels critères les représentants, ceux qui sont appelés les forces vives, ont été sélectionnés pour participer à cette concertation nationale. Ce qui est sûr, et vous allez pouvoir réagir dans un instant évidemment, ce qui est sûr c'est que la plupart des partis politiques, eux, ont boycotté.
Oui, mais pour quelles raisons les partis politiques ont boycotté? Tous les partis ont été invités pour essayer de s'asseoir et fournir des recommandations. C'est toujours dans cette dynamique de refondation et de réforme que la transition a annoncé depuis très longtemps. La constitution a été votée, il y a eu des nouvelles formes dans plusieurs secteurs. Pourquoi éviter, pourquoi refuser une réforme en profondeur des partis politiques, ce qui est réclamé par tous les Maliens aujourd'hui.
Il faut reconnaître que les Maliens en
ont marre du système de gestion politique dans notre pays.
Donc c'est la fin. Excusez-moi, Assédou, donc vous plaidez, vous, pour la fin du multipartisme. On revient à l'époque de 1990, sous le général Traoré, la dictature, alors.
Non, ce n'est pas une question de fin. C'est un principe que personne ne peut annuler aujourd'hui. Le multipartisme a toujours existé et ça va toujours exister au Mali. Mais il faut revoir le système de gouvernance politique. Il faut revoir la composition des partis politiques. Vous avez les mêmes partis politiques qui existent depuis 1991, qui sont dirigés par les mêmes personnes. Et c'est des gens qui participent à des coups d'État quand ils veulent. Ils participent à des systèmes de gouvernance avec le peuple ou bien sans le peuple. Quand vous supportez un coup d'État et demain vous dites que vous êtes contre le régime putschiste, mais il y a des questions à se poser. C'est ce qui a créé cette crise de confiance des Maliens envers leurs dirigeants des partis politiques. C'est ce qu'ils demandent. Ils demandent une réforme en profondeur au sein de ces partis. Il faut nous réduire. Plus de 300 partis politiques au Mali. Mais nous allons où?
Oui. En tout cas, officiellement, il s'agit effectivement d'assainir l'espace politique au Mali. Ça, c'est la version officielle. Ce qui est sûr, c'est qu'en Conseil des ministres, un projet de loi a été adopté pas plus tard que ce mercredi pour abroger la charte des partis politiques. Et l'objectif est clair. Et il est de dissoudre les différentes formations qui existent en ce moment au Mali. Ne raccrochez pas, Assédou. Je vous cache pas qu'on a eu quelques Maliens qui critiquaient sur nos réseaux sociaux ces mesures, ou en tout cas ces recommandations. Bon, certains nous disent ne pas vouloir prendre la parole directement sur l'antenne, par crainte, par mesure de sécurité, etc., etc. Ce qu'on comprend, bien évidemment. Je vous lis quand même le commentaire de Moussa, qui nous dit « La dissolution des partis politiques est une décision anticonstitutionnelle. Elle constitue un coup de poignard à la démocratie, au multipartisme. Si ces mesures sont appliquées, ce sera donc la dictature. » Armand, vous êtes ivoirien. Bonjour Armand.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Abidjan et comme de nombreux auditeurs à travers l'Afrique de l'Ouest, vous suivez de près l'évolution de cette transition qui s'éternise au Mali. Quel regard portez-vous justement sur ces recommandations, Armand? Vous souhaitiez prendre la parole, on vous écoute.
Alors, bien sûr Juan, cette situation effectivement au niveau du Mali, la dissolution des partis politiques, c'est une situation qu'il faut déplorer. ce qui pourrait ramener donc les systèmes démocratiques, sinon celui même du Mali, à des années en arrière. Et ce qu'il faut éviter aujourd'hui, c'est d'avoir un régime qui ait tout pouvoir, de tout faire à la fois, et qui soit à la fois juge et arbitre. Mmh. Alors, bien entendu, la question donc de la dissolution devait revenir uniquement qu'aux partis politiques. C'était à eux de s'organiser, de voir la pertinence soit de se refonder ou de se réformer en deux ou trois grands partis politiques. Mais quand l'État ou le régime militaire prend ce type de décision, en général, c'est antidémocratique.
Bon, pour vous, c'est antidémocratique. Et le fait que les participants donc à cette concertation nationale recommandent que le général Assimi Goïta, donc le chef de la junte, soit nommé président de la République pour un mandat renouvelable de 5 ans à partir de cette année, ce qui fait il est déjà au pouvoir depuis 5 ans, ce qui lui fait donc 5 ans de plus, voire peut-être 10 ans de plus, puisque il s'agit d'un quinquennat renouvelable. Là aussi, ça vous renvoie quelle image qu'est-ce que ça dit de l'évolution de la situation au Mali, selon vous?
Je pense que, de toute façon, il est déjà au pouvoir, et que des individus, soi-disant de groupements de partis politiques, souhaitent qu'il reste, ce n'est pas chose qui puisse étonner. D'autant plus qu'il est déjà là. De toute façon, quand on est au pouvoir, on a ses adeptes, les gens avec lesquels on travaille, et ceux-là sont mieux placés pour demander à ce qu'il reste. Sinon, un régime militaire au pouvoir n'est pas chose qu'on peut conseiller à tout État-nation. C'est même pas fait pour que l'État puisse se développer dans les bonnes conditions. Après, la question de la démocratie en Afrique, c'est une question fondamentale que tous les Africains devaient s'asseoir et réfléchir et savoir qu'on a des coutumes, on a des façons de faire avant pour lesquelles il faut adapter cette démocratie que les Européens nous ont envoyée, que l'Occident nous a envoyée, et de sorte qu'on ne puisse pas aller au-delà.
Oui.
Donc, ce qui n'est pas convenable.
Pas de copier-coller concernant le modèle démocratique occidental, c'est ce que vous dites.
Bien entendu.
On aura l'occasion peut-être un jour de voir ensemble quel serait le meilleur modèle démocratique pour le continent africain, puisque c'est vrai que régulièrement vous nous dites bon, nous on a nos traditions, nos valeurs, et on n'a pas forcément à reprendre vos critères de démocratie, vous les occidentaux. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on donne la parole à un auditeur de Guinée qui nous a dit au Standard avoir été bouleversé en apprenant la mort il y a tout juste une semaine, voire même la assassinat d'Aboubacar Cissé. Rappelez-vous, c'est ce Malien de 22 ans qui a été tué dans une mosquée dans le sud de la France après avoir reçu des dizaines de coups de couteau alors qu'il priait. Bonjour à Guibou.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Conakry, vous souhaitiez prendre la parole et vous exprimer dans la libre antenne, on vous écoute.
Oui, Juan, d'abord, je souhaite avant tout exprimer ma profonde solidarité et ma compassion envers la famille d'Aboubacar Cissé, ses proches et amis, ainsi qu'envers la communauté musulmane de France et l'ensemble du peuple français. Je condamne avec la plus grande fermeté ce crime odieux, cet acte d'une sauvagerie inacceptable, fruit d'une haine insensée et d'une intolérance grandissante. Il s'agit là d'un signe alarmant de l'essor de l'islamophobie en France. La France, qui a toujours été la terre des droits de l'homme, un refuge pour les persécutés du monde entier, un pays qui, sous des leaderships comme celui de François Mitterrand et Jacques Chirac, a su promouvoir la culture universelle et entretenir des liens solides avec le monde musulman et l'Afrique.
Et vous avez l'impression, Aguibou, justement, que l'islamophobie est en progression ici, en France?
Absolument, absolument. Et ce climat est entretenu par certains politiciens français, tel que M. Bruno Retailleau, moi je le nomme.
Le ministre de l'Intérieur.
Le ministre de l'Intérieur qui fait l'amalgame entre l'islam et le terrorisme, et qui n'hésite pas, en tant que ministre du culte, ministre de l'Intérieur, qui n'hésite pas de dire devant ses militants, devant une foule, à bas la voile.
À bas le voile. Ah oui, c'était par rapport au sport. C'était vive le sport, à bas le voile. Il exprimait son refus catégorique de voir des jeunes filles porter le voile pendant qu'elles faisaient du sport, notamment à l'école, si ma mémoire est bonne. En tout cas, Guibou, merci infiniment. Je suis obligé de vous interrompre. On arrive à la fin de cette émission. Merci de votre analyse. Merci à vous tous de nous avoir suivis tout au long de la semaine et de nous prouver chaque jour votre confiance et votre fidélité à RFI et à l'émission Appel sur l'actualité. On sera de retour lundi, on parlera du Gabon, puisque demain, Brice Clotaire-Oligui Nguema sera officiellement investi dans ses fonctions de président de la République. Prenez soin de vous, bon week-end, à lundi.
L'appli de Banque Atlantique, Atlantique Mobile, la meilleure expérience de banque à distance, vous a proposé Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique.